2013, 0:50 and 38 seconds.
911
emergency.
Yes, I'm in the middle of the field. The tape, we're just pushing guys over. Right here going towards Javelin on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here. I got to take the pitch to the woods. 2:30.
Okay, now run that by me.
Well, we're not talking to him. I actually ran into him.
You ran into him. Okay.
That's the first guy.
You need an ambulance?
Yes. No, I need the cops.
Okay. Is anybody hurt? Hello? Hello? Hello?
Vous êtes au bon endroit au bon moment. Vous écoutez Disparu, le podcast des disparitions mystérieuses. Je suis Lionel Camille et je vais vous raconter l'affaire de la disparition mystérieuse de Brandon Lawson. Une affaire véridique, une histoire tirée de mon nouveau livre Disparu en ville, 20 histoires vraies et mystérieuses. Nouveau livre qui vient juste de sortir sur Amazon, il est disponible. L'affaire Brandon Lawson va faire l'objet de plusieurs épisodes. Aujourd'hui, épisode 1. Nous sommes le 8 août 2013 à San Angelo, une ville du centre du Texas, dans le sud des États-Unis. À 26 ans, Brandon Lawson est un solide gaillard. Il mesure 1m79 et pèse 104 kg. Brandon est un ouvrier qui travaille dur sur les champs pétroliers, jusqu'à 95 heures par semaine. Malgré sa jeunesse, Brandon est déjà 4 fois père. Il a 3 enfants en bas âge avec sa compagne Ladessa Lofton, qui ont respectivement 1, 2 et 7 ans, et il a également une autre petite fille de 10 ans, issus d'une précédente union. Brandon et Ladessa se sont rencontrés au collège, très jeunes. Elle avait 15 ans, lui 16. Brandon et Ladessa sont à la fois meilleurs amis et amants. Ils ont grandi ensemble et ont construit une petite famille. En 2012, un an plus tôt, ils ont déménagé de Fort Worth, à côté de Dallas, pour venir vivre à San Angelo, une ville d'environ 100 000 habitants, où habite également Kyle, le frère de Brandon. Kyle est le seul membre de la famille de Brandon dans la région. Le jeudi 8 août 2013 au soir, Brandon et Ladessa sont sur les nerfs. Élever 4 enfants en bas âge n'est déjà pas tout repos en temps normal, mais là, ce soir-là, l'ambiance est électrique. Un des enfants est souffrant depuis plusieurs jours. Il a une double otite. Et Ladessa est fatiguée à cause de son travail. Brandon est quant à lui stressé parce qu'il doit démarrer sous peu un nouvel emploi dans une entreprise pétrolière locale. Si Brandon et Ladessa forment, semble-t-il, un couple soudé, il connaît des hauts et des bas, comme beaucoup d'autres. Ce soir-là, c'est clairement un bas. Marquons maintenant une petite pause dans le récit. Vous allez découvrir, maintenant, comment la soirée s'est a priori déroulée. La chronologie des faits a été reconstituée à partir des données de téléphonie mobile fournies par les opérateurs téléphoniques, mais surtout des déclarations des différents intervenants. L'entourage familial de Brandon et la police. Beaucoup d'appels téléphoniques ont été passés entre les différents protagonistes ce soir-là, mais on ignore le contenu exact des conversations. C'est pourquoi il convient de garder le recul nécessaire. Revenons maintenant au récit. Le jeudi 8 août 2013, l'ambiance est tendue dans la maison qu'occupent Brandon et Ladessa à San Angelo. Vers 22h45, une violente dispute éclate. On ne connaît pas le motif exact de la querelle, mais il pourrait être dérisoire. Ce qui est sûr, c'est que des mots durs sont échangés entre Brandon et Ladessa. Le couple n'en vient pas aux mains, mais la situation est apparemment assez grave, parce qu'à 22h55, Brandon appelle son père Bradley pour lui annoncer qu'il vient se réfugier chez lui. Donc Bradley Lawson l'en dissuade, et on peut le comprendre. Bradley, le père de Brandon, habite à Crawley, une ville de la banlieue de Fort Worth à 373 km de San Angelo. Et Brandon en a pour plus de 3h30 de route. Parcourir une telle distance en pleine nuit sur un coup de tête n'est pas vraiment raisonnable. Le père de Brandon essaye donc de raisonner son fils. Il lui conseille de se calmer et de rester avec sa famille. Une fois la colère retombée, il aura plus de chances de se réconcilier avec Ladessa. Sans compter que Bradley n'a peut-être pas envie de veiller toute la nuit pour attendre son fils. Mais Brandon ne veut rien entendre. Selon Ladessa, Brandon est dans un état d'esprit confus, même s'il n'a pas consommé de drogue ou d'alcool, selon les déclarations de la jeune femme. Toute cette discussion ne sert à rien. À 23h54, Brandon Lawson décide de partir. Brandon s'en va. En ce qui concerne sa tenue vestimentaire, il est torse nu et porte juste un short kaki. Au mois d'août, c'est la canicule au Texas. Au pied, Brandon porte des Nike Air Max blanches. Après avoir attrapé un t-shirt jaune qui traînait dans le salon, Brandon sort dans la nuit. Il monte à bord de son pick-up, un pick-up Ford modèle F-150 couleur argentée, et prend la route. Brandon n'a pratiquement rien emporté avec lui. Brandon a juste pris sur lui son portefeuille, ses clés et son smartphone, un modèle Motorola Droid Razr 4. Si Ladessa ressent de la colère contre son compagnon, elle s'inquiète également, et elle appelle aussitôt Kyle, le frère de Brandon qui vit dans le coin. Un quart d'heure plus tard, Kyle passe en coup de vent chez Ladessa pour vérifier que tout va bien, selon ses propres déclarations. Nous sommes maintenant le vendredi 9 août 2013 à 0h30 du matin. Brandon a quitté le domicile conjugal depuis 35 minutes quand il appelle Kyle, son frère. C'est visiblement une très mauvaise soirée pour Brandon, car il est tombé en panne d'essence. Il explique à son frère qu'il est bloqué sur la Highway 277, près de Bronte, une bourgade rurale de 999 habitants au nord de San Angelo. Brandon, qui est parti précipitamment de San Angelo, n'a visiblement pas pensé à faire le plein d'essence au préalable. Kyle dit à son frère qu'il va venir le dépanner, et il appelle ensuite Ladessa pour l'informer de la situation. Cette dernière lui propose de passer chez elle pour prendre un jerrycan vide, qu'il n'aura qu'à remplir et amener à son frère. Ladessa laisse donc le jerrycan vide devant l'entrée de sa maison, puis prend une douche et va se coucher. Comme convenu, Kyle passe en voiture récupérer le jerrycan. Audrey, sa petite amie, est avec lui. Le problème, c'est que Kyle n'a pas d'argent pour acheter de l'essence. Selon ses déclarations, il doit encaisser un chèque incessamment sous peu. Mais durant la nuit du 8 au 9 août 2013, son compte bancaire est vide. En fait, Kyle compte récupérer son frère qui l'attend au bord de la route et l'amener à une station-service pour qu'il achète lui-même l'essence. Kyle et Audrey prennent donc la direction de Bronte, sur la Highway 277. À 0h34, 0h36 et 0h48, Brandon tente d'appeler Ladessa, mais elle est au lit et n'entend pas son smartphone sonner. En effet, elle a mis son appareil à charger dans sa voiture parce que Brandon emportait avec lui le seul chargeur de téléphone de la maison. On ignore pour quelle raison Brandon appelle sa compagne, car il ne laisse aucun message vocal. À 0h58, un routier de passage dans la région compose le 911, le numéro d'appel d'urgence aux États-Unis. Il veut signaler la présence d'un véhicule gênant au bord de la Highway 277. Le conducteur du poids lourd, dont on ignore l'identité, affirme que le véhicule, apparemment abandonné, présente un danger pour les autres automobilistes. C'est le bureau du shérif du comté de Cook qui est compétent pour intervenir. L'adjoint Brandon Neal, qui circule à bord d'une voiture de patrouille, annonce qu'il se rend sur place. À 1h10 du matin, le vendredi 9 août 2013, Kyle et sa petite amie Audrey arrivent à l'endroit approximatif où Brandon est tombé en panne d'essence. Tout en conduisant, Kyle appelle son frère pour savoir à quel endroit il se trouve. Brandon lui répond, mais la communication n'est pas très bonne. Il faut dire que le secteur de Bronte n'est pas bien couvert par du réseau et il y a de la friture sur la ligne. Selon les déclarations de Kyle, c'est comme si Brandon était en train de courir dans les broussailles. Il est essoufflé et lui demande de se dépêcher d'arriver. Audrey, la petite amie de Kyle, a aussi l'occasion de parler à son beau-frère, qui lui dit à un moment
« Putain, je saigne !»
Audrey présume qu'il s'est égratigné sur un cactus, à moins qu'il ne se soit blessé sur un fil de fer barbelé, en passant par-dessus une clôture. Bref, le couple finit par trouver le pick-up de Brandon au bord de la Highway 277, à environ 6 km au sud de Bronte et 46 km de San Angelo. Mais le pick-up Ford F-150 est vide. Et on est au milieu de nulle part. La route traverse d'immenses terrains couverts de cactus. Un paysage typique du Texas. Et il fait nuit noire. Où est passé Brandon? À 1h15 du matin, très peu de temps après le couple, Brandon Neal, l'adjoint du shérif du comté de Cook, arrive lui aussi sur les lieux de la panne. Notez bien, car c'est important, que le policier est venu d'une autre direction et qu'il n'a rien remarqué de suspect. Il n'a vu personne au bord de la route. Donc Neal tombe sur Kyle et lui demande s'il est le routier qui a appelé le 911 pour signaler le véhicule abandonné. Donc Kyle Lawson lui répond que non et l'informe que le pick-up appartient à son frère Brandon qui a dû partir à pied. Marquons une nouvelle pause dans le récit. Jusqu'ici, tous les acteurs en présence, famille, police, sont d'accord sur le déroulement des faits. Mais la situation va se complexifier. L'histoire va devenir nébuleuse, car certaines choses ne vont pas être dites, voire délibérément cachées. Par exemple, Kyle Lawson s'abstient de dire au représentant de la loi, à l'adjoint Neal, qu'il vient juste de parler au téléphone avec son frère, Brandon. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Ce vendredi 9 août 2013, à 1h15 du matin, c'est une sortie de routine pour l'adjoint Neal. Un véhicule en panne au bord de la route, c'est très banal. Les policiers sont souvent appelés pour intervenir sur ce genre d'incident. Donc sur place, l'adjoint Neal inspecte le pick-up de Brandon. Ce qui est étrange, c'est qu'il est mal garé. L'arrière dépasse un peu sur la route. Ce détail est bizarre parce que, en général, quand on tombe en panne d'essence, on a le temps de manœuvrer sa voiture et de s'arrêter correctement sur le bas-côté. L'adjoint constate que le pick-up n'est pas endommagé. Son conducteur n'a donc a priori pas eu d'accident. À l'intérieur du pick-up Ford F-150, il n'y a aucun signe de lutte ou de trace de sang. Rien n'indique qu'un crime soit intervenu. Par contre, la clé n'est plus sur le contact. Le propriétaire a dû l'emporter. L'adjoint Neal examine les alentours, dans les environs de la camionnette, mais il ne voit rien de spécial dans l'obscurité. Pas de lumière, personne. Sur la Highway 277, il y a peu de trafic la nuit. Néanmoins, c'est une ligne droite et les poids lourds, essentiellement des camions-citernes transportant du pétrole, filent à plus de 110 km/h. Donc Neal allume donc les feux de détresse, les warnings du pick-up, pour éviter qu'un routier ne percute le véhicule de Brandon. Puis, le policier remonte dans sa voiture de patrouille. L'adjoint du shérif du comté de Cook ne prend pas la peine de vérifier les plaques d'immatriculation du Ford F-150 sur son ordinateur de bord. Pour lui, c'est inutile. Il n'y a aucune cause probable ou suspicion d'un crime justifiant une arrestation en droit américain. Donc, dans le cas présent, l'adjoint Neil considère qu'il s'agit juste d'une simple naissance. Donc, le propriétaire est probablement parti à pied chercher du carburant. Pendant que l'adjoint Neil fait son travail, Kyle Lawson rappelle discrètement son frère à 1h18 du matin. Il parvient à le joindre et lui demande où il se trouve.
« Je suis à 10 minutes de là !»
lui répond Brandon. La réception est médiocre et la communication coupe brusquement. Kyle a perdu tout signal. À moins que Brandon ait éteint son appareil. Bref, c'est l'inconnu total. Dans les minutes suivantes, Kyle et Audrey, sa petite amie, s'éloignent sur la route et tentent de recontacter Brandon par message texte. À 1h19 du matin, Audrey, la petite amie de Kyle, envoie à Brandon le texto suivant. « La police est à ton pick-up. » Notez, entre parenthèses, que ce message sera sujet à interprétation. Marquons une nouvelle pause dans le récit pour apporter une information capitale. Kyle et Audrey ont de toute évidence une attitude ambiguë vis-à-vis des forces de l'ordre, et vous allez comprendre pourquoi. Selon ses proches, Brandon Lawson avait appris quelques mois plus tôt qu'un mandat d'arrêt vieux de plusieurs années avait été mis contre lui. C'est un vendeur de voitures qui s'en était aperçu en vérifiant les informations administratives relatives à Brandon.
« Vous savez qu'il existe un warrant contre vous, Monsieur Lawson ?» lui avait-il demandé.
Pour être honnête, Brandon avait une jeunesse assez mouvementée. Il avait notamment commis un délit lié à des stupéfiants quelques années auparavant. Pour mieux comprendre la procédure du warrant, ou mandat, aux États-Unis, il faut savoir que Brandon n'avait pas pris la peine de régler une amende, ce qui entraîne l'émission automatique d'un mandat d'arrêt par les autorités. Il faut noter que cette règle s'applique pour toutes les amendes, y compris pour les infractions bénignes. Donc, dans cette histoire, les proches de Brandon ne cachent pas qu'il avait un passé toxicomane, mais d'après eux, son problème d'addiction était de l'histoire ancienne. Brandon était désormais sobre. Pour preuve, il avait conservé un emploi pendant 13 mois. Il avait même passé avec succès un test de détection de produits stupéfiants pour son travail, 3 jours avant sa disparition, le 5 août 2013. En ce qui concerne le mandat d'arrêt, Brandon avait décidé de faire face à ses responsabilités. Selon Ladessa Lofton, sa compagne, Brandon mettait de l'argent de côté et avait recruté un avocat pour régler le problème à l'amiable. Faut-il prendre pour argent comptant toutes ces déclarations ? La seule chose sûre, c'est que le vendredi 9 août 2013, Brandon Lawson risque de se faire arrêter au premier contrôle d'identité. Pire, il encourt également une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée. Kyle Lawson le sait mieux quiconque et veut sans doute protéger son frère. C'est pourquoi il fait de la rétention d'informations. Kyle ne dit rien à l'adjoint Neil, et ça n'est pas tout. Il pense à tort ou à raison que Brandon se cache peut-être dans les buissons, en dehors de la route, pas loin de son pick-up. Audrey, la petite amie de Kyle, résonne visiblement de la même façon parce qu'elle a prévenu Brandon de l'arrivée de la police par texto. Revenons maintenant au récit. Vers 1h30 du matin, le vendredi 9 août 2013, l'adjoint Neil quitte les lieux à bord de sa voiture de patrouille. Il quitte les lieux de la panne. Neil présume que Brandon est parti à pied sur la highway 277 pour aller chercher de l'essence. Donc le policier prend donc la direction du sud. Il passe devant une petite aire de repos située à seulement 320 mètres du lieu de la panne où Brandon aurait potentiellement pu se réfugier. Mais il n'y a personne. Cette aire de repos n'abrite que quelques tables de pique-nique, il n'y a aucune pompe d'essence. Neil roule vers le sud, jusqu'à la limite du comté de Cook. Il arrive à la frontière avec le comté voisin qui est celui de Tom Green, auquel appartient la ville de San Angelo. Là, Neil fait demi-tour et remonte vers Bronte, toujours sur la highway 277. Donc l'adjoint Neil remonte vers Bronte, il repasse devant le pick-up abandonné de Brandon et il continue. Il continue 6 km plus loin, jusqu'à Bronte. Durant tout le trajet, Neil ne repère aucun piéton sur la route. Tout semble normal. Il n'y a aucune activité suspecte dans le secteur. À Bronte, Neil vérifie la station-service Stripes, l'unique endroit où on peut acheter de l'essence dans le coin. Ouverte 24 heures sur 24, la station-service n'est située qu'à 6 km de l'endroit où Brandon est tombé en panne. Seulement, Brandon n'est pas là. Après le départ de Neil, donc du policier, Kyle et Audrey restent près du pick-up de Brandon. Et ils s'attendent à le voir revenir. Seulement, Brandon ne réapparaît pas. À partir de 1h30 du matin, Kyle déclare qu'il cherche activement son frère. Kyle arpente pendant 3 heures la Highway 277 à pied et en voiture. Il crie le nom de son frère pour l'attirer. En vain. Selon les déclarations de Kyle Lawson, des collègues de travail viennent l'aider à trouver Brandon. Mais tout le monde reste sur la route. Ça c'est important. Personne ne va voir dans les broussailles qui longent la highway. Kyle Lawson multiplie les appels sur le téléphone, le smartphone Motorola de Brandon, qui ne répond pas. Kyle Lawson déclare que le téléphone de son frère cesse de sonner à 3h30 du matin. Peut-être que sa batterie est vide. À 4h30 du matin, l'ADSA se réveille après avoir fait un cauchemar. Donc l'ADSA est chez elle, à San Angelo. Elle ressort de sa maison et va récupérer dans sa voiture son téléphone portable qu'elle avait laissé à recharger. Et là, elle constate que Brandon a tenté de la joindre à 3 reprises, à 0h34, 0h36 et 0h48 du matin, mais qu'il n'a laissé aucun message. L'ADSA essaye de rappeler Brandon, mais tombe à chaque fois sur son répondeur. Donc la compagne de Brandon se rend aussi compte que Kyle, son beau-frère, l'a également appelé plusieurs fois. Donc elle le rappelle. Et Kyle l'informe là qu'il a trouvé le pick-up de Brandon, mais que ce dernier n'était pas là. « J'arrive pas à trouver mon frère, il m'a appelé, je n'arrive pas à le trouver », dit-il à l'ADSA. À 5h du matin, le vendredi 9 août 2013, l'ADSA contacte la police pour savoir s'il y a du nouveau concernant Brandon depuis qu'on a trouvé son pick-up abandonné. Mais elle n'obtient aucune information supplémentaire. Lorsque le jour revient à 7h du matin, le 9 août 2013, Kyle apporte le jerrycan rempli d'essence au pick-up de Brandon. Il n'a pas pu le faire plus tôt parce que, comme je vous l'expliquais, il a dû d'abord attendre d'encaisser un chèque à la banque. À 8h30 du matin, une dépanneuse vient récupérer le pick-up de Brandon Lawson à la demande de l'adjoint Neil. Le dépanneur remorque le véhicule sur la Highway 277 jusqu'à Bronte. Ce vendredi 9 août 2013 et durant tout le week-end, le shérif Wayne McCutcheon est absent. Mais ses adjoints ne pensent pas avoir affaire à un dossier de personnes disparues. L'adjoint Neil, qui a traité le dossier depuis le début, ne s'affole pas. Pour lui, Brandon Lawson a simplement abandonné son véhicule après une panne d'essence. Autre précision importante, le comté de Cook est l'un des plus pauvres du Texas. Son territoire est grand, plus de 2200 km² et peu peuplé. Il n'y a que 3300 habitants. Les deux seuls patelins sont Bronte et Robert Lee. Par conséquent, le budget alloué à la police est modeste. Le shérif McCutcheon n'a que 4 adjoints, donc notamment Neil, des adjoints mal payés qui doivent assurer de nombreuses missions. On comprend donc aisément que ce matin-là, les adjoints du shérif ont d'autres chats à fouetter que de localiser en urgence un automobiliste qui est tombé en panne sèche. Pour l'ADSA Lofton, la compagne de Brandon, la police locale ne semble pas mesurer la gravité de la situation. Alors elle décide de prendre les choses en main. On sait que dans les affaires de disparition, les premières 48 heures sont vitales. Étant donné que les autorités traînent les pieds à chercher Brandon Lawson, l'ADSA demande à des amis de l'aider, seulement elle ne connaît pas beaucoup de monde dans la région. Brandon et elle n'avaient emménagé à San Angelo qu'un an plus tôt. Ils travaillaient énormément, chacun de leur côté, et n'avaient pas beaucoup de temps consacré à des relations amicales. Bradley Lawson, le père de Brandon, Kyle et une douzaine de volontaires, donc quelques amis et voisins, répondent quand même à l'appel. Avec ses quelques volontaires, la DESA organise une mini-opération de search and rescue autour de la dernière localisation connue de Brandon, le lieu de la panne donc. Près de l'endroit où on a retrouvé le pick-up de Brandon, ils se séparent en groupes de deux et partent à pied dans les quatre directions. Certains longent la highway, donc 277, ils vont dans les deux sens, et d'autres sortent de la route, de chaque côté, est-ouest, c'est-à-dire qu'ils vont dans les terrains sauvages. Toute la journée, on cherche Brandon Lawson, en pure perte. La DESA Lofton réalise vite la complexité de la tâche. Le périmètre de recherche est trop vaste. Le terrain est trop difficile d'accès. Il n'y a aucun sentier, juste quelques routes en terre. Le sol rocailleux est parsemé de trous et de buissons épineux qui gênent la visibilité. Marcher l'été, en plein mois d'août dans cette zone, est épuisant, et pour couronner le tout, l'accès à ces terrains est théoriquement interdit. En effet, ils appartiennent à des propriétaires privés qui les louent régulièrement des chasseurs. Rien d'étonnant à cela, les cochons sauvages pullulent dans le secteur qui est aussi infesté par des crotales à la morsure mortelle. Selon les déclarations de la DESA, les propriétaires des terres lui donnent la permission de chercher Brandon sur leur propriété, du moins au début. Une chose angoisse particulièrement la jeune femme. Au mois d'août, les températures montent très haut au Texas. Il faut donc trouver Brandon le plus vite possible parce qu'il risque de mourir de soif. En résumé, les recherches sont excessivement compliquées. La DESA et ses amis rentrent bredouille. Le vendredi 9 août 2013 au soir, la DESA est fatiguée à un point extrême. Elle décide de ne pas rentrer chez elle à San Angelo. Pour elle, elle considère que c'est plus pratique de rester sur place, de prendre une chambre d'hôtel au Country Inn de Bronte, afin de rester à proximité de la zone de recherche et ne pas faire d'aller-retour incessant entre Bronte et son domicile. Donc selon toute apparence, la DESA fait son maximum à cette période pour retrouver Brandon. Le lendemain, le samedi 10 août 2013, la DESA Lofton reprend les recherches, sans plus de succès. Le soir, elle reste encore une fois dormir au Country Inn de Bronte. Le dimanche 11 août 2013, la DESA paye un pilote privé avec ses propres économies pour faire une reconnaissance aérienne. L'avion décolle à 17h30 et survole pendant une heure le périmètre où Brandon est tombé en panne. À bord de l'appareil, la DESA prend des photos du sol dans l'espoir de repérer quelque chose. Rappelez-vous que Brandon portait un t-shirt jaune, potentiellement repérable de loin. Donc pendant une heure, l'avion fait des ronds dans le ciel. À un moment donné, le pilote aperçoit un regroupement de rapaces à environ 1,6 km de la highway de 77. C'est plutôt assez angoissant. Un sombre présage. En réalité, et c'est rassurant, les oiseaux charognards ont juste trouvé un cadavre de raton laveur. Quand l'avion regagne le sol, donc le dimanche soir, la DESA s'empresse de visionner les photos qu'elle a prises. Seulement, les clichés ne contiennent aucun indice intéressant. Dans la soirée du dimanche, le moral est au plus bas. La DESA est morte d'angoisse et même elle commence à se décourager. Toute l'énergie et l'argent dépensés depuis 3 jours se sont révélés inutiles. On n'a pas trouvé la moindre trace de Brandon. Heureusement, la DESA peut compter sur le soutien de Bradley, son beau-père. Mais apparemment, Kyle paraît lui plus distant. S'il a passé, selon ses dires, la première nuit à chercher son frère, il s'avère beaucoup moins actif par la suite. Le lundi 13 août 2013, le shérif Wayne McCutcheon, qui était absent les jours précédents, revient à Bronte. Ça fait maintenant 96 heures qu'on est sans nouvelles de Brandon Lawson. Vu qu'il a disparu dans sa juridiction, c'est le bureau du shérif du comté de Cook qui est compétent pour traiter le dossier. L'affaire revient donc au shérif Wayne McCutcheon. Le lundi après-midi, McCutcheon demande qu'on fasse décoller un hélicoptère du département de la sécurité publique, le DSP. Donc l'hélicoptère décolle à la demande du shérif et puis il inspecte la zone de la disparition. L'hélicoptère est doté d'un radar infrarouge à balayage frontal, qu'on appelle aussi Forward Looking Infrared, FLIR. C'est un équipement de haute technologie qui détecte la signature thermique de tout être vivant dans un secteur défini. Donc l'hélicoptère vole à très basse altitude, à seulement 10 mètres du sol. Mais il ne repère rien. Le radar thermique, lui, pareil, il reste aveugle. Hein, alors que normalement, ce type d'équipement est capable de déceler un cadavre pendant plusieurs jours, parce qu'il continue d'émettre de la chaleur. Là, c'est un échec total. Lundi soir, l'appareil revient à la base. On n'en sait pas plus sur la disparition de Brandon. Donc là, vu les résultats désastreux, le lendemain, le mardi, donc, le shérif McCutcheon ne juge pas utile de renvoyer l'hélicoptère au sud de Bronte pour poursuivre les recherches. Et il faut dire qu'aussi, c'est parce qu'il en a appris davantage sur les circonstances du départ de Brandon le soir du 8 août 2013. Sachant que Brandon a quitté le domicile conjugal après une dispute avec sa compagne, Ladessa, McCutcheon présume que Brandon est parti rejoindre une autre femme. Une femme qui a très bien pu venir le chercher sur la Highway 277, après qu'il soit tombé en panne. Et c'est vrai que ça peut s'entendre. Jeune et plutôt beau garçon, Brandon avait peut-être une liaison cachée. Pour Ladessa, c'est juste impensable. Le couple qu'elle formait avec Brandon avait certes déjà connu des passages à vide et des séparations, mais ils s'étaient toujours réconciliés. Depuis 10 ans, Brandon et Ladessa étaient très soudés. Brandon n'avait jamais quitté le foyer plus d'une heure, même après une dispute, et surtout il n'aurait jamais abandonné sa famille. Brandon était un bon père et il travaillait dur pour ses enfants. Dans les jours suivants, Ladessa remplit un formulaire de déclaration de personne disparue, et les autorités émettent officiellement un avis de recherche concernant Brandon Lawson.